Après le double choc anglo-saxon du Brexit, de l'élection de Donald Trump, l'Europe, paralysée par une décennie passée à gérer des crises vacillant sous la vague populiste venue de l'Est, attendait beaucoup de la victoire d'Emmanuel Macron et de la réélection d'Angela Merkel. À 18 mois des élections européennes de 2019, une fenêtre de tir idéale se présentait pour réformer et relancer l'Union européenne sous l'impulsion du couple franco-allemand. Mais l'incertitude dans laquelle est plongée désormais l'Allemagne depuis l'échec d'Angela Merkel a formé son gouvernement de coalition risque au contraire d'entraîner l'Europe dans l'un de ces faux plats dont elle a la spécialité alors que commence le blocus de Berlin. Comment peut-on ravitailler l'Europe? Pour en parler, je suis en compagnie de Sébastien Maillard. Bonjour, vous êtes directeur de l'Institut Jacques Delors. Vous avez récemment publié avec Enrico Letta « Faire l'Europe dans un monde de brutes ». C'est aux éditions Fayard. Et puis à côté de vous, Marion Gaillard. Bonjour, vous êtes historienne et spécialiste des relations franco-allemandes. On va d'abord évoquer cette crise politique en Allemagne. Votre diagnostic, Marion Gaillard.
Bonjour. Écoutez, je ne vais pas lire dans le marc de café, mais clairement, on ne peut pas nier que c'est une crise. Elle était assez prévisible. En tout cas, certains en Allemagne, dès le soir de l'élection, ont confirmé que ce serait très compliqué de former une coalition jamaïcaine en raison des oppositions. Aujourd'hui, il y a plusieurs scénarios possibles. Parmi les meilleurs qu'on peut envisager aujourd'hui, ce serait évidemment, une sortie du bois du SPD qui pourrait revenir.
Donc le Parti Social-Démocrate.
Voilà, le Parti Social-Démocrate qui pourrait revenir sur sa décision de ne pas reconduire une grande coalition. Ça, ce serait la bonne nouvelle. La bonne nouvelle pour l'Europe, la bonne nouvelle pour Emmanuel Macron, parce qu'il aurait une chance de faire aboutir certains, en tout cas, des projets qu'il a formulés pour l'Europe. L'autre option qui pourrait se dessiner, c'est un gouvernement minoritaire entre les Verts et la CDU, ce qui serait aussi une pas trop mauvaise nouvelle, on va dire, pour l'Europe. En tout cas, l'éviction des libéraux est une bonne nouvelle, au final.
Pourquoi?
Pour l'Europe. Alors, le blocage n'est pas une bonne nouvelle, mais l'éviction des libéraux, en tout cas leur auto-éviction, est plutôt une bonne nouvelle parce que on est très très loin du parti libéral de Genscher des années 80. Ce parti libéral qui était au centre, qui faisait la bascule entre... parti pivot entre la CDU et le SPD. Aujourd'hui, et puis très très pro-européen à l'époque, aujourd'hui a viré quasiment, j'allais dire, à la droite de la CDU, entre la CDU et la CSU, on pourrait dire, avec un discours à la fois très très anti-migrants et très anti-européen. Ils ont refusé notamment les aides à la Grèce lorsqu'ils étaient au gouvernement en 2009-2013 et il a fallu que Angela Merkel bataille énormément contre eux. Là, ils refusent de reconduire ces politiques d'aide. En tout cas, ils veulent diminuer de moitié le fonds de solidarité européen. Donc, clairement, c'est plutôt une bonne nouvelle, le fait qu'il soit pas, qu'il soit plus dans le jeu. Maintenant, la question, c'est quoi à la place?
Mais alors, pour que le Parti Social-Démocrate accepte une alliance, il va falloir lui offrir un plat de lentilles. La taille du plat de lentilles, évidemment, importe. Est-ce que vous êtes capable de nous donner la recette de ce plat, Marion Gaillard?
Malheureusement, je crains que non. J'ai jamais été
très bonne
cuisinière.
On a deux, trois idées quand même là-dessus. C'est-à-dire que ça va se négocier. Donc, il s'agit de constituer une coalition. Pour constituer une coalition, il va falloir qu'Angela Merkel offre des postes
à ce parti. Oui, mais
alors,
pour l'instant, ils veulent pas en entendre parler, quand même. Alors, ils vont être poussés par
S'ils veulent pas en entendre parler, il n'y aura pas de coalition.
En tout cas, ils disent qu'ils veulent pas en entendre parler. Ils sont clairement poussés par le président Steinmeier, qui est issu de leur rang. Donc, il est possible qu'en fait, ça se termine bien. Il y a des aspects sociaux, à mon avis, à mettre sur la table, dans le plat de lentilles. Notamment le fait d'atténuer maintenant les effets sociaux des réformes Schröder qui ont porté leurs fruits sur le plan économique mais qui ont eu des répercussions sociales assez importantes et donc peut-être qu'il est temps là d'utiliser les marges dégagées par les résultats économiques pour engranger des résultats sociaux. Ça c'est une chose. L'autre aspect c'est évidemment et avec les Verts le tournant climatique, enfin vers là pour protéger le climat et puis peut-être l'Europe justement aller un peu plus loin sur les questions européennes. Ça peut être un aspect de la grande coalition.
Si l'on poursuit la première hypothèse, donc l'hypothèse d'un accord avec le Parti Social-Démocrate, Marion Gaillard, est-ce qu'on pourrait imaginer, je ne sais pas moi, par exemple, le poste de ministre des Finances? Vous en pensez quoi?
Bah pourquoi pas, ce serait un signe évidemment assez important. Ils ont déjà eu les affaires étrangères, l'économie aussi. Donc je sais pas sûr que ce soit
parce que le poste de ministère des Finances, c'est lui quand même dessert ou qui sert le verrou.
Oui, c'est-à-dire remplacer Schäuble par quelqu'un qui viendrait du SPD, ce serait une très très bonne nouvelle pour toute l'Europe probablement. Parce que pareil, Schäuble d'aujourd'hui n'est pas le Schäuble qui accompagnait Helmut Kohl il y a 25 ans. Il a beaucoup évolué aussi et donc ce serait une très très bonne nouvelle. Donc ça, c'est le bon scénario, mais c'est pas encore gagné. Et évidemment, les scénarios du pire, c'est des nouvelles élections qui reportent le calendrier, d'une part, et d'autre part, dont l'issue est éminemment incertaine.
Donc... Vous en pensez quoi, Sébastien Maillard, vous qui êtes directeur de l'Institut Jacques Delors ?
Je confirmerai qu'une nouvelle grande coalition, peut-être ce ne serait pas forcément très gagnant pour le SPD, qui a laissé des plumes, on l'a vu aux dernières élections du 24 septembre, mais ce serait une bonne nouvelle pour l'Europe en général et pour Emmanuel Macron en particulier, puisque je dirais que c'est une coalition avec laquelle il sait travailler, et au moins les choses, on ne prend pas trop de retard. Surtout, effectivement, si le ministère des Finances incombe au SPD, encore que ce ne veut pas dire qu'après, ce soit un partenaire forcément facile et qu'il dise oui à tout ce que dit la France. C'est loin, c'est pas du tout ça que ça veut dire, mais au moins, effectivement, peut-être un partenaire un peu moins coriace que aurait été le FDP.
Oui, parce qu'il faut définir ce qui pourrait être bon pour la France. Après tout, que serait une politique qui serait favorable à la France, Sébastien Maillard ?
Actuellement, il ne s'agit pas de demander à l'Allemagne de faire ce qui est bon pour la France, mais en revanche, que les deux partenaires arrivent à s'entendre sur la zone euro, sur comment mieux la gouverner et comment établir une union économique et monétaire qui repose vraiment sur ces deux pieds. Actuellement, les conceptions sont radicalement divergentes lorsqu'on parle avec le ministère des Finances allemand ou le ministère des Finances français. C'est pas une question de négociation où je te donne ci, je te donne ça. C'est vraiment conceptuel sur quand on parle de budget de la zone euro, lorsqu'on parle d'un ministre des Finances de la zone euro, lorsqu'on parle, parfois on met des choses très différentes derrière. Et donc là-dessus, il y a des philosophies qui sont différentes. Avec le FDP, effectivement, le dialogue eût été très difficile et peut-être que je parle au passé, mais c'est peut-être pas non plus
Marion
encore exclu.
Gaillard fait la grimace.
Et avec le SPD, au moins on peut parler. En plus, si on allait vers une nouvelle grande coalition, c'est effectivement le scénario auquel pousse Sigmar Gabriel, proche d'Emmanuel Macron. Donc il serait sans doute peut-être remis en selle. En tous les cas, ce serait effectivement le bon scénario. Un gouvernement minoritaire, c'est pas non plus exclu du tout, puisqu'on peut imaginer un gouvernement minoritaire que le SPD soutient au cas par cas. Et là-dessus aussi, on peut avancer. Le plus difficile, surtout, c'est qu'actuellement, et ce qui avait quand même pas été anticipé, en tout cas côté français, c'est qu'après le discours de la Sorbonne, on espérait, c'était juste le lendemain des élections du 24 septembre en Allemagne, souvenez-vous, on espérait vraiment avancer, avec vous l'avez dit, cette fenêtre d'opportunité largement ouverte. Et là, elle est en train de glisser et peut-être un peu de se refermer, mais au moins elle est plus étroite.
Je vous propose d'écouter un extrait de ce fameux discours de la Sorbonne, tenu donc par Emmanuel Macron le 26 septembre dernier.
Que disent-ils à nos peuples ? Que eux ont la solution, que eux protégeront. Mais face à quel défi ? Tous les défis qui nous attendent, du réchauffement climatique à la transition numérique, en passant par les migrations, le terrorisme, tout cela, ce sont des défis mondiaux face auquel une nation qui se rétrécit sur elle-même ne peut faire qu'à peu près et peu de choses. Ils mentent au peuple. Mais nous avons laissé faire cela parce que nous avons voulu installer l'idée que l'Europe était devenue une bureaucratie impuissante. Nous avons partout en Europe expliqué que quand la contrainte était là, elle était européenne. Que quand l'impuissance était à la porte, ce n'était pas nous, mais Bruxelles. Oubliant ce faisant que Bruxelles, c'est nous. Toujours, à chaque instant, nous n'avons plus proposé, nous n'avons plus voulu. Je ne laisserai rien à toutes celles et ceux qui promettent la haine, la division ou le repli national. Je ne laisserai aucune proposition. C'est à l'Europe de les faire. C'est à nous de les porter. Aujourd'hui. Et maintenant.
Le discours de la Sorbonne d'Emmanuel Macron, c'était le 26 septembre dernier. Qu'en pensez de ce discours, Marion Gaillard ?
Ben, du bien. Je ne peux que souscrire absolument à tout ce qui a été dit dans l'extrait que vous venez de passer. Je souriais pendant qu'on l'entendait parce que j'ai plus de mal avec ce côté très prêtre. On a l'impression d'assister à une messe, il manque plus que les hosties.
Mais, c'est l'éloquence de la chair.
Oui, bon, ça dépend. Mais enfin...
Si je puis ajouter sur cette métaphore... le problème aussi avec l'Europe, et Jacques Delors l'a souvent souligné, c'est qu'on avait la liturgie sans la foi. C'est-à-dire beaucoup de liturgies européennes, de grandes messes franco-allemandes, mais pas vraiment de foi, alors qu'on peut dire que le président français actuellement porte une certaine foi européenne.
Si clairement, clairement. Non, mais je souscris alors à chaque mot, c'est-à-dire le fait que depuis des décennies, on dit qu'on est impuissant et que l'impuissance, c'est à cause de Bruxelles et qu'on oublie que Bruxelles, c'est nous. Bruxelles, c'est pas une entité ex ante. Bruxelles, ce sont les États qui décide au final. Donc ça, c'est très bien. Nous n'avons pas proposé, nous n'avons plus été une force de proposition, je suis entièrement d'accord. La France a été la belle au bois dormant de l'Europe depuis Maastricht, en réalité, depuis le petit oui à Maastricht. Elle s'est repliée dans une frilosité. Elle a laissé l'Allemagne toute seule, orpheline au sein du couple. Donc effectivement, je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure, il y a pour une fois, depuis un quart de siècle, une fenêtre d'opportunité. Ce serait vraiment dommage de pas la saisir. Donc je souscris complètement à ça et le fait que les défis sont européens, effectivement.
Mais la France a été la belle au bois dormant, dites-vous, Marion Gaillard. L'Europe nous a laissé dormir, par exemple, sous la présidence de François Hollande. Les déficits n'ont pas été sévèrement tensés. Aujourd'hui, ce que l'on attendrait, j'ai cru comprendre qu'Emmanuel Macron voulait avoir les mains libres pour pouvoir gérer le budget à sa guise. Est-ce cela qu'il faut attendre de l'Europe ?
Non, là j'étais sur ce que l'Europe pourrait attendre de la France.
Oui, je sais, voilà. mais c'est un va-et-vient.
Mais oui, tout à fait. Mais nous, ce qu'on peut attendre de l'Europe, ça c'est très politique, ça dépend des options, effectivement. Si on dit aux gens aujourd'hui, à tous les eurosceptiques, ce qu'on attend de l'Europe, c'est que elle nous tape sur les doigts quand on dépasse le déficit, on va pas regagner beaucoup, beaucoup de suffrages pour l'Europe. Et là, on rentre...
Ce n'est pas ce qu'elle a fait sous la présidence, encore une fois, de François Hollande.
Non, mais là, il y a aussi un débat de fond à avoir au niveau européen sur les choix qui ont été faits depuis 2010 sur l'austérité. La Cour des comptes européenne a hier taclé cette politique d'austérité concernant la Grèce en montrant que ça avait été inefficace, que beaucoup d'économistes avancent depuis 2010. Donc là, on rentre dans un débat de fond sur les déficits. Est-ce que c'est vraiment l'objectif numéro un ?
Votre avis à ce sujet, Sébastien Maillard, je rappelle que vous êtes directeur de l'Institut Jacques Delors.
Bruxelles, c'est nous, c'est effectivement très vrai, c'est important de le souligner. Bruxelles, ce n'est pas une chose, le parti d'étranger, comme avait dit une fois Jacques Chirac lors de l'appel de Cochin de 76. Je voudrais revenir sur le fait que, effectivement, aujourd'hui, la France se veut fort de propositions et met beaucoup d'idées sur la table. On attend côté allemand la même chose, et peut-être qu'à cette campagne, on avait dit que la campagne des législatives allemandes avait été très ennuyeuse. Tout le monde était un peu couru d'avance, on s'attendait à ce qu'Angela Merkel gagne, et du coup, il n'y avait pas eu de grand suspense, et du coup, pas beaucoup de débats, et à part parfois des altercations violentes, mais pas de débat sur l'Europe, et le FDP, par exemple, vous rappeliez la figure de Genscher, depuis, on a l'impression qu'ils n'ont pas vraiment développé restructuré leur pensée sur l'Europe. Et il faudrait que cette crise en Allemagne soit l'occasion aussi pour les partis de ce pays c'est vraiment s'attaquer de front à cette question, puisque c'est en fait la grande absente de leur campagne et actuellement des discussions.
Marion Gaillard.
Oui, parce que je viens de critiquer la France sur le fait qu'elle n'a pas porté un projet européen digne de ce nom depuis 25 ans, mais on pourrait dire presque la même chose de l'Allemagne, en tout cas pas depuis 25 ans. Mais Merkel n'a clairement pas une grande vision de l'Europe. On a eu le grand discours de Joschka Fischer en 2000, celui de Gerhard Schröder en 2001, qui proposait une Europe fédérale avec un noyau dur, etc.
La Constitution.
Discours auquel la France a répondu très mollement, faut bien le dire. Mais par contre, Angela Merkel n'est pas une grande chancelière européenne, très clairement. Donc là aussi, je partage complètement ce qui vient d'être dit. Il est urgent que les partis allemands se réemparent du projet européen pour le penser. Et donc, ce qui serait bien, c'est qu'on arrive à le penser ensemble, le couple franco-allemand. Parce qu'effectivement, comme ça a été aussi souligné, on part tout le temps de points de vue extrêmement différents. Et c'est ça qui fait ensuite la force des compromis que peut proposer le couple franco-allemand. C'est que comme il a fallu se mettre d'accord sur des choses radicalement différentes, en général, le compromis est acceptable par les autres.
Pourquoi n'y a-t-il pas d'autres couples en Europe ? Pourquoi ne pas imaginer finalement une reconfiguration ? Est-ce que les intérêts de la France et de l'Allemagne sont si évidents à harmoniser, tandis que ceux qu'on pourrait avoir avec l'Italie, l'Espagne ? Votre opinion à ce sujet, Sébastien Maillard ?
Le couple franco-allemand, c'est historique et irremplaçable depuis, par définition, cette réconciliation. Ça reste la force presque transcendante qui porte le projet. Et des pays, effectivement, on l'a souligné, avec des positions au départ, des cultures politiques très différentes, c'est ce compromis-là qui peut faire avancer. On s'entend facilement avec l'Italie ou l'Espagne, lorsqu'il s'agit de parler de la pêche ou des tomates ou tel sujet, mais globalement, sur la zone euro, par exemple, les vues sont beaucoup plus faciles à partager. Donc, où on a changé, c'est que, avant Emmanuel Macron, l'idée, c'était, on va avoir Merkel, on va lui faire un bras de fer, on va faire une coalition contre elle, et, pour essayer de faire un rapport de force. L'approche d'Emmanuel Macron est là très différente, c'est-à-dire, on va s'allier, on va parler ensemble. On a un gouvernement germanophone en bonne partie
germanophile
et donc et on va surtout se rendre irréprochable. Peut-être l'occasion aussi, pendant que l'Allemagne est en crise, c'est à la France de montrer qu'elle est enfin capable de respecter les fameux 3% de déficit budgétaire. Je rappelle que cette règle, elle n'est pas imposée par Bruxelles, c'est une règle commune qu'on s'est tous donnée. Et si vraiment cette règle était si dure et que Bruxelles imposait l'austérité, ça se saurait.
Marion Gaillard.
Oui, j'avais noté pendant la campagne quelque chose qui va dans le sens de ce qui vient d'être dit, c'est que justement, dans le débat, il avait bien dit, dans les débats, parce que je crois pas que c'était celui du deuxième tour, il avait bien dit, moi je ne veux pas faire contre l'Allemagne, je ne veux pas faire face à l'Allemagne, je veux faire avec l'Allemagne. Et ça, c'est un discours très très courageux en France, parce qu'il y a quand même une germanophobie assez largement partagée, à la fois dans certains, dans le milieu politique, et aussi dans l'opinion publique, notamment depuis l'austérité. Donc ça, j'avais trouvé que c'était un vrai changement de discours sur l'Allemagne, et je crois effectivement qu'il faut faire avec l'Allemagne, et je partage ce qui vient d'être dit aussi, il n'y a pas beaucoup d'alternatives au couple.
Il n'y a pas de plan B, finalement.
Pourquoi pas de plan B? Parce qu'on pourrait très bien imaginer finalement une politique, comme vous le rappelez, elle a été soutenue par d'autres partis politiques que celui d'Emmanuel Macron, une politique qui considérerait que le couple franco-allemand sont les intérêts de l'Allemagne.
Bon, ce serait un couple déformé par définition. Non, l'autre alternative, c'est historiquement, c'était avec les Britanniques. Pompidou avait lui essayé plutôt de pencher là-dessus, et c'est une autre tendance à avoir une. Alors bien sûr, maintenant c'est hors de question, puisque les Britanniques ont fait un tout autre choix, et c'est un partenaire hautement difficile. Mais pour l'Allemagne aussi, finalement il n'y a pas vraiment d'autre choix que la France. Si elle regarde du côté de la Pologne ou si elle regarde du côté des Britanniques, là aussi, elle n'a en fait que la France comme partenaire pour porter ce couple à rééquilibrer.
Un petit mot, Marion.
Non, ça a été souvent tenté, le flirt, l'adultère avec d'autres d'un côté comme de l'autre, parce que Gerhard Schröder a aussi tenté de s'allier avec Blair. François Mitterrand a fait de l'œil au pays du Sud. Voilà, ça n'a jamais marché.
Merci Marion Gaillard et Sébastien Maillard. On vous retrouve aux environs de 8h20. On va évoquer cette fois-ci la situation politique dans les autres pays européens, la Pologne, l'Angleterre avec les conséquences du Brexit, et puis également voir cette vague populiste, notamment en Hongrie. Faire l'Europe, c'est le livre que vous publiez avec Enrico Letta, Sébastien Maillard.